VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En République centrafricaine, quelques 23 000 personnes ont fui Bokaranga et Niem, deux villes du nord-ouest du pays, proches du Cameroun, en raison des récentes violences sur place. C'est ce qu'annonce l'OCHA, le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires. La grande majorité des habitants de Bokaranga, 15 000, et ceux de Niem, 8 000, se sont réfugiés dans la brousse où ils ne peuvent avoir accès à l'assistance humanitaire, a souligné l'OCHA dans un communiqué de presse. Samedi dernier, des éléments du groupe armé 3R ont attaqué Bokaranga malgré la présence en ville de casques bleus de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu des victimes, a affirmé une source militaire à l'AFP, sans donner de chiffres précis. Apparu fin 2015 dans le nord-ouest de la Centrafrique, le mouvement armé 3R dit protéger la communauté Peul contre les attaques des milices anti-Balaka. D'après l'OCHA, la ville de Niem, située à une quarantaine de kilomètres de Bouar dans l'ouest du pays, a également été prise par un groupe armé. Le Soudan, retiré de la liste des pays visés par le décret migratoire du président Donald Trump, s'est engagé lundi à redoubler d'efforts pour normaliser ses relations avec les États-Unis. Washington doit décider le 12 octobre s'il faut ou non lever complètement les sanctions prises contre Khartoum en 1997. Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Sudan Tribune à Paris, nous situe sur les futurs enjeux des relations entre les deux pays.
Le processus de normalisation, c'est justement pour amener Khartoum à produire des changements dans le pays. Par rapport au Darfour, au fait, ce n'est pas le principal volet de la chose, mais le principal volet, c'est d'amener Khartoum à adopter des changements vers un régime démocratique. Quand on parle régime démocratique, c'est-à-dire c'est plein d'autres choses. Le règlement de conflit du Darfour, l'administration américaine en veut autant des factions rebelles qui refusent de signer des accords de paix qu'au gouvernement soudanais, c'est-à-dire toutes les parties au conflit sont récalcitrantes. Washington est en train de mettre la pression sur les deux parties. C'est vrai, ça fait partie du processus de démocratisation, de normalisation, c'est-à-dire aussi de l'autre côté, des relations entre les deux pays. Mais ce n'est pas seulement le Darfour. Il y a aussi un autre conflit, il y a aussi les questions des libertés religieuses, il y a les questions de la liberté d'expression, etc., etc.
Mohamed Dagui, rédacteur en chef de Sudan Tribune à Paris. Afrique de l'Ouest, au Nigeria, 60 membres présumés de mouvements réclamant l'indépendance du Biafra dans le sud-est du pays ont comparu hier devant un tribunal. La justice a décidé de les maintenir en détention provisoire. Yacouba Ouedraogo.
Les inculpés, tous désignés comme membres du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, IPOB, sont accusés de nombreuses infractions, dont tentatives de meurtre et actes de terrorisme. Selon le porte-parole de la police de l'État d'Abia, Geoffrey Ogbana, l'affaire a été ajournée au 25 octobre. Sept autres personnes ont également comparu pour les mêmes chefs d'inculpation la semaine dernière à Abia. Les tensions vont croissant dans la région depuis l'arrestation en octobre 2015 du leader du groupe Nnamdi Kanu, détenu jusqu'à sa libération sous caution en avril dernier. Son procès pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État va débuter à Abuja en octobre. Le 15 septembre, le gouvernement nigérien a officiellement classé le mouvement indépendantiste comme organisation terroriste. Abuja accuse ce groupe d'attiser des tensions en faisant courir de fausses informations sur un prétendu génocide contre les Igbo.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Lutte contre l'immigration clandestine. En Côte d'Ivoire, une ville fait énormément parler d'elle dans la crise migratoire. Il s'agit de Daloa, troisième agglomération du pays, devenue la plaque tournante des départs vers l'Europe. Notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara s'est rendu sur place.
Daloa est à 384 km d'Abidjan et est la capitale du centre-ouest du pays. Grande région productrice de café et de cacao, la ville de près de 300 000 habitants tire cependant sa célébrité depuis quelques années de la place qu'elle occupe dans le trafic de jeunes en partance pour l'Europe. Lors de notre présence à Daloa, une ONG internationale, le Réseau des Africains de l'Allemagne, était en meeting de sensibilisation à Orly 2, l'un des quartiers de la ville.
Le désert, c'est le plus grand cimetière. Et c'est chaque jour, quand je quittais d'Agadez, on m'a dit, il y a 50 corps qu'on a retrouvés dans le désert. Il y a 57 migrants qui sont abandonnés dans le désert. Il faut les ramener sur Agadez.
À Daloa, de nombreuses familles, surtout au sein de la communauté malinké, mettent tout en œuvre pour faciliter le départ de leurs fils vers l'Europe. Les femmes n'hésitent pas à vendre or, bijoux et autres objets de valeur pour assurer le voyage à leurs enfants. Pourquoi Daloa est-elle devenue en quelques années la plaque tournante de ses départs vers l'Europe? L'ancien député Touré Lanciné, chef des communautés malinké de Daloa.
Tous les quartiers sont atteints, mais les parents sont un peu sourds à nos explications. Ils sont poussés par les parents, les mamans, les gens, ils sont poussés. Il faut partir, il croit que c'est l'Eldorado. Et ça circule, il y a des maisons de recrutement, on voit très bien.
Pour retourner Lanciné, il faut s'attaquer à la lancinante question de l'emploi des jeunes si l'on veut freiner l'hémorragie que constitue l'immigration clandestine.
Il n'y a pas les mêmes possibilités dans les autres villes qu'ici. Manque d'emploi, le chômage chronique.
C'est inquiétant. Hein?
C'est inquiétant. Il faudra que les Européens nous aident avec les ONG. Si on peut empêcher, c'est mieux essayer de fixer les gens, créer des industries. Dans le monde, il n'y a pas d'industrie.
Traoré Youssouf dit avoir vécu toutes sortes de difficultés en Libye. De retour à Daloa, il n'a cependant pas renoncé à son projet de se rendre coûte que coûte en Europe.
On peut rester au cas où on a des projets, des moyens un peu. Sinon, il n'y a pas de travail, rien ne va aller là. Il y a d'autres parmi nous qui sont mariés. Pour moi, je ne suis pas marié, mais je suis père de deux filles. Comment les prendre en charge?
En français ou dans les langues locales, tous les canaux sont aujourd'hui propices dans la sensibilisation contre le fléau qui constitue l'immigration clandestine. Georges Ibrahim Tounkara, Daloa, VOA Afrique.
Rwanda, l'opposante rwandaise Diane Ouigara, qui avait tenté de se présenter à la récente présidentielle rwandaise face au chef de l'État Paul Kagame, a été interrogée lundi par la police, tout comme sa mère et sa sœur, suite à leur arrestation samedi. Madame Ouigara ainsi que sa mère et sa sœur avaient déjà été interpellées début septembre avant d'être relâchées après une semaine d'interrogatoire, selon sa famille. Elles étaient alors entendues pour des faits présumés d'évasion fiscale, tandis que Diane Ouigara était également soupçonnée de contrefaçon de documents dans le cadre de sa tentative de candidature à la présidentielle du mois d'août. La police dispose de 5 jours à compter de leur arrestation pour les déférer au parquet en vue d'une éventuelle inculpation. Actualité hors d'Afrique, maintenant au Moyen-Orient, le vote massif des Kurdes irakiens en faveur de l'indépendance suscite un tollé dans la région, notamment en Irak, Syrie et Turquie. Les précisions de Michel Joseph.
Les résultats du référendum sont attendus mardi soir, mais il est clair que les Kurdes irakiens, dans leur écrasante majorité, se sont prononcés en faveur de l'indépendance. Le Parlement irakien, réuni lundi à Bagdad, en l'absence des élus kurdes, a appelé au déploiement de l'armée dans les zones dont le gouvernement national et la région autonome du Kurdistan se disputent le contrôle. La Turquie et la Syrie, qui ont leur propre minorité kurde, ont dénoncé le référendum. Ankara compte fermer sa frontière terrestre avec cette région et menace par ailleurs de bloquer les exportations de pétrole du Kurdistan irakien à travers son territoire.
Bras de fer États-Unis, Corée du Nord, le président américain Donald Trump n'a pas déclaré la guerre à la Corée du Nord. La Maison-Blanche a tenu à clarifier par ces termes la position des États-Unis suite à une menace de Pyongyang d'abattre tout avion américain violant son espace aérien. Gabi Dorsil.
L'escalade verbale continue entre Donald Trump et le régime nord-coréen. Cette fois, le chef de la diplomatie de Kim Jong-un, Ri Yong-ho, a affirmé que son pays a fait l'objet d'une déclaration de guerre des États-Unis, ce que la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a catégoriquement démenti lundi dans un point de presse. Cela fait suite aux propos tenus la semaine dernière à l'Assemblée générale de l'ONU par le président Trump et à une démonstration de force le week-end écoulé de l'aviation militaire américaine qui a fait voler des bombardiers stratégiques près des côtes de la République populaire et démocratique de Corée. Insultes et menaces réciproques se multiplient depuis quelques jours entre les deux gouvernements. Le Pentagone prépare les options militaires pour le président Trump au cas où Pyongyang n'arrêterait pas ses provocations, selon le porte-parole du département américain de la défense, le colonel Robert Manning.
Et pour terminer, Corne de l'Afrique, la Chine a mené des exercices militaires inédits à Djibouti, où son armée a inauguré début août sa première base à l'étranger. La télévision chinoise a montré des blindés roulant sur une piste désertique du pays africain, des groupes de soldats en tenue de camouflage tirant avec des armes automatiques au milieu d'un paysage lunaire. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.